Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui,
tout, bien sûr. J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good.
Le riz a toujours fait partie des ingrédients secs, pratiques à avoir chez soi. Chez Nouvelles Écoutes, il y a quelques semaines, lorsqu'on a réfléchi à la construction de cet épisode, les mesures de confinement liées au coronavirus n'avaient pas encore été déployées. On était loin d'imaginer alors que cet épisode résonnerait autant avec l'actu. Mais maintenant que ça fait une semaine que nos déplacements sont limités, on s'en rend bien compte. Car oui, comment se nourrir efficacement lorsqu'on doit désormais se faire à manger midi et soir, chez soi, tout en restreignant nos courses ? Heureusement, on a tous un paquet de riz qui traîne dans une armoire de la cuisine, n'est-ce pas ? Dans l'Empire des signes, Roland Barthes parle du riz comme d'une matière contradictoire. En effet, le riz est à la fois cohésif et détachable. Il écrit « Ce qui arrive sur la table serré, collé, se défait d'un coup de la double baguette, sans cependant jamais s'éparpiller, comme si la division n'opérait que pour produire encore une cohésion irréductible. » Heureux hasard, la première fois que j'ai lu ces lignes, j'étais au Japon, dans le salon d'une auberge traditionnelle, un ryokan perdu dans les montagnes de Nagano. Chaque soir, on nous servait de la cuisine kaiseki, le nom que l'on donne à ce repas typique de la gastronomie japonaise, composé d'une multitude de petits plats. Lors de ces longs dîners, on voit défiler plein d'assiettes différentes. Mais le seul contenant que l'on garde tout du long, c'est le bol de riz. Ce riz grâce auquel on goûte à une sauce parce qu'il sert de support, mais aussi ce riz avec lequel on se rince la bouche après avoir avalé un ingrédient saumuré. Riz au curry, risotto, riz wolof, salade de riz, tajine, le gâteau de riz iranien, paella. En accompagnement ou constitutif d'un plat, ce féculent trouve sa place dans un nombre incalculable de préparations et il remplit bien l'estomac. D'ailleurs, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, je vous livre une petite recette de la débrouille avec des ingrédients que vous avez sans doute déjà dans vos placards, même en période de confinement. En deuxième partie d'épisode, je reçois Elis et Vanessa Bond, à la tête du restaurant Mikwabo, servant une cuisine afro-caribéenne. Elis, qui a fait partie des 4 lauréats de la dotation Goemio pour les jeunes talents en 2019, est née en Guyane. Et Vanessa, sa femme, est originaire du Bénin. Avec le couple, on a parlé de la place du riz en Afrique de l'Ouest et dans la cuisine des Caraïbes.
Le riz, je dirais, ça apporte déjà de la consistance. Ça nous a apporté déjà, ça nous permet d'être, de manger à notre faim déjà pour commencer. Ensuite, la texture quand même en bouche est agréable parce qu'au final, quand on mange le riz, c'est comme une pâte un peu et ça se rapproche de ce que nous on mange très souvent, la pâte qui est faite en général avec de la farine de blé, mais on a également de l'akassa qui est fait à base de farine de riz.
Mais avant ça, j'ai donné la parole à Aveline. Connue sur Twitter et Instagram sous les noms de Hunter Gourmet et Impératrice Fou, cette jeune femme d'origine chinoise partage avec sa communauté de nombreuses adresses et des plats qu'elle prépare chez elle. Ensemble, on a discuté de l'autocuiseur comme pièce maîtresse d'une cuisine, du rôle du riz à table et de pourquoi nos parents nous disaient toujours de finir la viande avant le riz. J'ai commencé par lui demander ce qu'évoque le fameux féculent pour elle.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le bol de riz, tout simple, tout blanc, avec des baguettes à côté. Pas forcément un plat, un peu comme dans le cliché, le petit bol bien rond et tout.
Tel qu'on le verrait par exemple dans les films du studio Ghibli, quoi, vraiment.
Oui,
juste
c'est ça, vraiment le cliché, parce que...
Le dôme.
Oui, c'est ça, car chez moi, on mange plutôt le riz, comme ça, avec des plats à côté, plutôt que direct incorporé avec des plats, donc c'est ça qui vient à l'esprit.
Oui, donc le bol de riz, dans ces cas-là, c'est vraiment la base que tu vas avoir dans les mains, et ensuite tu vas, avec tes baguettes, piocher dans les autres plats qu'il y aura à table.
Des plats qui peuvent être du coup très divers, très nombreux, ça peut être des plats avec de la viande, des légumes, du tofu... Du coup, j'arrive pas à visualiser vraiment directement, spontanément, un plat avec. Mais vraiment, je vois que le riz, en fait.
Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes et qui est important dans ton alimentation ?
Clairement, oui, car du coup, je suis d'origine chinoise. Et quand j'étais petite, on mangeait du riz à tous les repas, quasiment. Ou des nouilles, mais vraiment rarement des nouilles. Et parce que moi, je suis plus de la région de Wenzhou. Et dans cette région, on mange beaucoup de riz, moins de raviolis ou de nouilles. Et du coup, j'ai gardé cette habitude et je mange du riz quasiment une fois par jour au moins. Et maintenant, j'habite toute seule pour mes études. J'ai du coup un rice cooker que j'utilise tous les jours. J'en mange tous les jours. Une bonne quantité de riz, dans le rice cooker et je peux ensuite le refaire sauter si je veux le lendemain par exemple.
Mais oui, cette technique trop pratique. Donc du coup, tu as ton riz bien chaud et puis bien mou en fait le jour J.
C'est ça, oui.
Et puis après, le lendemain, tu peux toujours faire sauter ça. Alors moi, personnellement, je mets un peu d'huile avec des oignons que je fais revenir. Et puis ensuite, j'ajoute le riz. Parfois, j'ajoute des sauces aussi et puis éventuellement un œuf pour lier le tout.
C'est ça, c'est vraiment personnalisable à volonté. Et en plus, il est encore meilleur le lendemain, en fait, car il est un peu plus sec et c'est plus facile à faire sauter, moins collant.
Ouais, carrément, c'est vrai. Et alors, comment il est ton rice cooker? C'est un gros truc de compète de famille ou alors c'est plus un truc adapté à un appartement d'une personne?
C'est vrai que moi, j'ai toujours fantasmé. Je me suis toujours dit que j'allais m'acheter, quand je serai grande, un rice cooker japonais avec plein de fonctionnalités, etc. Une fois, je suis rentrée du Japon, par exemple, et j'ai vu plein de familles chinoises avec des rice cookers qui ramenait du Japon. Je pense qu'ils ont plein de fonctionnalités différentes.
Ouais.
Et j'aimerais bien en avoir un comme ça. Mais malheureusement, celui que j'ai chez moi, c'est un Moulinex qu'on avait reçu en cadeau d'un mariage. Car quand on va à un mariage chinois, en général, on reçoit des cadeaux. Et là, on avait reçu un rice cooker. Il est plutôt pas mal même. Et celui qu'il y a chez moi, en tant qu'étudiante, c'est celui que m'a légué les anciennes locataires.
Ouais.
Qu'ils étaient aussi chinoises. Et
d'accord.
Du coup, j'ai juste récupéré, je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Tout est en chinois, donc j'appuie sur un bouton que je comprends, ça veut dire « on » et c'est tout.
Trop bien. Donc, tu as récupéré, tu as eu cet appart, il y en a qui récupèrent des tables basses Ikea, bah, toi, tu as eu le rice cooker avec.
C'est ça, j'ai récupéré le rice cooker, j'étais tellement contente de le voir parce que de toute manière, c'est le premier achat que je fais quand je déménage. Toujours, je me dis « ah, faut pas oublier le cuiseur à riz ».
Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper important, quoi. C'est une pièce maîtresse dans la cuisine, dans les cuisines
exactement.
De foyers asiatiques.
C'est aussi important qu'une casserole pour moi, ça, c'est évident, car j'ai jamais cuit le riz dans une casserole, par exemple. Du coup, je ne saurais même pas comment le faire.
Ouais. Oui, tu n'as jamais cuit du coup du riz pilaf ou alors du riz dans de l'eau, quoi.
C'est
toi,
ça,
à chaque fois, tu le fais
ça.
À l'autocuiseur.
Même, du coup, les anciennes locataires m'ont légué aussi du riz Uncle Ben.
Ouais.
Et je l'ai fait cuire au rice cooker aussi, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe sinon.
Ah oui, t'as jamais tenté de le mettre du coup dans de l'eau bouillante et ensuite juste faire chauffer la casserole comme ça, comme
non,
des pâtes quoi en fait.
J'ai jamais tenté, c'est vrai. Et à la fin, il faut égoutter du coup.
Ouais, c'est ça. T'es censé les goûter. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je prends le paquet quand c'est fait en paquet individuel, ce qui n'est pas très écolo d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, t'as une tonne de plastique du coup dans ces paquets-là. Mais tu le mets autour de ton robinet d'évier pour le faire égoutter. Puis après, tu l'ouvres avec une paire de ciseaux et le riz est prêt quoi.
Ah ok, d'accord. Bon, je suis sûre que je sais le faire, mais je saurais le faire si j'essaie d'apprendre. Mais je suis tellement, je suis tellement accro à mon rice cooker que ça serait le trahir de faire ça, quoi.
Ouais, je comprends. Et en plus, ça donne pas exactement le même type de riz. Le riz n'est pas collant, quoi, dans ces cas-là.
Ah oui, c'est ça.
Et quels sont les plats que tu aimes qui comportent du riz?
Alors, moi, j'aime beaucoup le lok lak.
Oui, alors raconte-nous ce que c'est le lok lak. Enfin, moi, je le sais, bien sûr, mais pour nos auditeurs et nos auditrices, peut-être qu'ils ne
alors,
connaissent pas.
Le lok lak, c'est le plat, c'est du bœuf. C'est un plat vietnamien, cambodgien, d'après ce que j'ai compris. Il y a différentes variantes, suivant la recette vietnamienne ou la recette cambodgienne, de bœuf sauté avec de l'huile, des sauces, de la sauce d'huître, de la sauce soja, servi avec du riz qui est mélangé avec du concentré de tomate.
Ouais,
et souvent avec présenté avec un petit œuf en haut.
Oui, carrément, un œuf au plat par-dessus.
C'est ça, ouais. Tu es d'accord avec cette description?
Tout à fait.
Voilà.
Je peux ajouter aussi que lok lak en vietnamien, lok lak, c'est comme ça qu'on le dit, ça veut dire secouer, ça veut dire bouger, tu vois, un peu instable. Et visiblement, ça viendrait du fait que quand tu fais cuire la viande dans la poêle, tu la secoues un peu pour la faire revenir. Donc tu la lok lak, quoi, du coup, en vietnamien.
D'accord. Voilà. Super intéressant, je ne savais pas du tout, alors que je cuisine ça souvent. Un autre plat un peu régressif auquel je pense spontanément, c'est le classique riz œuf magie que je fais tout le temps chez moi avec ma sœur. Quand on ne sait pas quoi manger, on fait juste tout simplement du bon riz thaï avec un peu de sauce magie et un œuf au plat dessus, tout simplement. Et moi, je trouve ça vraiment délicieux. Des fois, je mets un peu de ciboulette quand même pour que ça soit un peu plus présentable. Et ouais, ça, c'est un autre de mes plats préférés. Enfin, je n'ai pas honte de le dire.
Ouais.
C'est pas du tout élaboré, mais vraiment super bon.
Ah bah ouais, carrément. Je te rejoins à 2000% parce que c'est vraiment le plat que tu peux te faire en 2 secondes quand il te reste un fond de riz. Tu mets ça dans un bol, t'ajoutes la sauce magie. L'œuf, c'est hyper rapide à faire en fait.
C'est vraiment comfort food quoi, pour
ouais.
moi. Et plutôt sain en plus.
Ouais. Et pourquoi tu Selon toi, quelle est l'utilité du riz, par exemple, même dans un plat comme le loklak? Est-ce qu'on pourrait remplacer ça par des nouilles ou alors c'est vraiment important que dans certains plats, on trouve du riz plus qu'un autre féculent?
Alors moi, je pense que vraiment, c'est, dans le loklak, ce n'est pas possible que ce soit avec du tout avec des nouilles. J'arrive même pas à l'imaginer. Car je pense que le riz, ça a peut-être un pouvoir un peu plus absorbant des sauces.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que tous mes plats préférés avec du riz, par exemple aussi, un autre plat dont je n'ai pas encore parlé, mais le riz avec juste de l'œuf sauté avec de la tomate, c'est aussi un plat que je refais très souvent. C'est un plat vraiment en sauce et ça glisse tout seul, en fait, avec le riz. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ça, la différence, c'est que le riz, il y a un truc avec la sauce qui se passe, qui fait que ça... C'est juste, ça va trop bien ensemble niveau texture, niveau goût.
En fait, ce que j'aime bien moi avec le riz, en particulier le riz collant, c'est que quand tu ajoutes quelque chose, bah, tout à coup, tu as l'impression que tout le riz en fait, va prendre cette saveur. Et ensuite, tu as l'impression que dans une cuillère de ce riz-là, tu vas avoir comme un shot en fait, des sauces ou même des oignons que tu auras ajoutés. Ça devient tout à coup une sorte de matière première qui se transforme en fait, et qui n'a rien à voir cuisiné de telle façon ou d'une autre.
C'est vrai, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'avec les bonnes épices, etc., parfois même le riz, il disparaît un petit peu derrière et on n'a plus l'impression de manger juste du riz. Ça a tout un autre goût. Et là, je pense encore à un autre plat. C'est un autre plat que j'aime beaucoup refaire. C'est un plat thaï, le riz sauté ananas poulet, qui est super, super
bon.
Ah
ouais.
Ouais. Et là, par exemple, quand je mange ça, j'ai pas l'impression de manger du riz. Je sens plus les saveurs de toutes les épices, le poulet, la coriandre, etc. Et le riz est un petit peu plus en arrière-plan, on va dire,
ouais,
dans ce plat-là. Mais dans une cuillère de ce riz, puisque finalement c'est un riz sauté tomate, on a vraiment, comme tu le dis, le shot de saveurs, des mélanges, etc.
En fait, c'est ça qui est fou, c'est que le riz, c'est à la fois le support un peu modeste qui va accueillir et laisser les autres ingrédients s'exprimer. Mais s'il n'était pas là, ce serait quand même pas la même chose. Le riz, c'est vraiment cette base solide sur laquelle tu peux compter, quoi, qui va venir accueillir les autres ingrédients. En fait, j'ai aussi l'impression que le riz peut avoir une autre utilité, c'est quand tu manges quelque chose de très piquant. On parlait tout à l'heure du bol de riz que tu as devant toi et les autres plats à partager sur la table au milieu. Bah, le riz, en fait, c'est un peu la base sur laquelle tu vas toujours revenir. Tu vas chercher, piocher de la viande, piocher un peu de sauté, un peu de légumes verts, cette omelette, blablabla. Et après, tu vas toujours revenir vers ce riz qui va presque te nettoyer peut-être la bouche entre chaque autre bouchée, ou alors te servir de base, ou alors accueillir un petit peu de sauce, accueillir un peu de bouillon. Enfin, c'est vraiment le trait d'union pour tout, en fait.
Oui, carrément, en fait, c'est le liant.
Alors, la dernière fois que j'étais au Vietnam et que j'ai rendu visite à ma famille, il y a une partie de ma famille, un oncle un peu éloigné, qui nous a reçus voilà, pour le repas. Et il a fait un truc que j'avais jamais vu avant. En fait, il nous a servi à table toutes les fameuses assiettes voilà, qu'on a mentionnées. Donc, avec des, je sais pas, il y avait des crevettes sautées à l'ail, du porc à la sauce d'huître, quoi d'autre, des liserons d'eau, des omelettes avec des champignons noirs, plein de choses. Et en fait, il n'y avait pas de riz à table. Il nous a laissé manger tout ça. Et seulement à la fin, il nous a apporté le riz en expliquant ensuite, parce que moi, je l'ai interrogé, genre, ah, pourquoi il n'y avait pas le riz depuis le début? Et il a dit, mais parce qu'en fait, c'est impoli d'apporter le riz tout de suite. Parce que c'est avec ça que tu vas remplir ton ventre le plus rapidement et c'est un aliment qui est peu cher. Donc si tu veux être vraiment très élégant en fait, avec tes invités, tu les laisses vraiment manger goulûment, tu vois, tout ce qu'il y a à table. Et seulement à la fin, pour compléter s'ils ont encore faim, eh ben, tu leur apportes le riz. Mm-hmm. Pour qu'ils savourent vraiment ce qu'il y a à table avant.
Ouais, c'est vraiment super intéressant que tu me dises ça, car j'ai pas pensé, mais c'est pareil quand je vais en Chine et que je me fais inviter par des oncles, des tantes, des amis à mes parents. Toujours, quand on va au restaurant, il n'y a pas de riz, en fait. Il n'y a que des plats, des légumes, de la viande, du homard, enfin, plein de plats un peu chers, etc. Et peut-être que sur la table des enfants, on va avoir du riz sauté, parce que les enfants, ils adorent ça. Enfin,
ouais,
ils aiment que ça, finalement. Et sur la table des adultes, en général, il n'y a pas de riz. Il n'y a vraiment que des plats. Et pourtant, à la fin, on a bien mangé, on est bien calé, mais... sans riz.
C'est drôle donc parce que à la fois dans les cultures asiatiques, ces gastronomies-là, on adore le riz et en même temps, quand on peut s'en passer et faire des repas dits plus luxueux ou festifs, eh ben, on va se dire bon, le riz c'est peut-être l'ingrédient un peu plus populaire et on n'est pas obligé d'y avoir recours quoi, pour pas gâcher ce qu'il y a sur la table avant.
C'est vrai, il y a vraiment une contradiction car à la fois on adore ça, il y a des poème, par exemple, en Chine. Enfin, il y a un poème très connu en Chine qui dit qu'il ne faut pas gâcher chaque grain de riz, il faut toujours manger jusqu'au dernier grain, car c'est le paysan qui a fait pousser ce grain de riz par sa sueur, sa transpiration. Enfin, vraiment, on apprend ça dès l'enfance, en fait, aux enfants. Il ne faut pas gâcher le riz.
Ouais.
Mais en même temps, on se dit, oui, ça sera du gâchis de manger du riz, par exemple. Parfois, quand on mange au restaurant avec mes parents, je ne sais pas si c'est pour rigoler ou pas, mais ils disent, non, mais si, arrête de manger du riz, finis la viande d'abord, sinon tu vas te caler avec le riz, c'est mange
oui.
la viande. Voilà, c'est ça.
C'est exactement ce raisonnement. Mange, en fait, le truc qui est le plus onéreux dans ton bol avant de t'attaquer au riz. Parce que ce serait dommage de te remplir de riz et de ensuite laisser la viande qui coûte plus cher.
C'est ça. Et ça, c'est un peu un raisonnement quand même. En tout cas, je trouve très asiatique. Car comme moi, je suis une enfant d'immigrée et que mes parents, ils ont peut-être connu un peu plus la faim. Ils doivent se dire, oui, on mange d'abord la viande. Quoi. C'est ça la priorité.
Mais oui, c'est, je pense clairement un raisonnement de personnes qui a un jour connu le manque ou dont les parents ont connu le manque. Et ça a infusé sur leur façon de...
C'est ça. Et du coup, même maintenant, moi, je raisonne comme ça alors que je n'ai pas connu le manque. Peut-être que j'aurais plus aimé manger le riz. Mais je m'attaque quand même à la viande car je me dis, il ne faut pas gâcher.
Aveline m'a raconté que lorsqu'elle est malade, il y a ce truc parfait pour l'aider à se remettre sur pied. Le porridge. Du riz dans un bouillon, avec un œuf et un peu de sauce magie. C'est drôle parce que moi aussi, j'ai eu le droit toute mon enfance quand j'attrapais froid. Avec Aveline, on est également tombé d'accord sur une chose. L'une des meilleures marques de riz thaï parfumé, c'est Oiseau Céleste. Vous n'aurez aucun mal à la trouver dans les supermarchés et épiceries asiatiques. Souvent, il y a deux variétés de riz vendues, l'ancienne et la nouvelle récolte. Privilégiez la nouvelle récolte, si vous le pouvez, parce qu'il s'agit toujours du riz le plus moelleux et savoureux. J'en profite d'ailleurs pour rappeler ici, à toutes fins utiles, comme on dit, qu'un riz, ça se rince. C'est une étape importante pour retirer l'amidon présent autour des grains, sauf si vous aimez votre riz particulièrement collant. Bref, le riz est l'aliment de base dans les cuisines asiatiques. Mais pas seulement dans celle-ci. En effet, la première céréale mondiale en matière d'alimentation humaine est également très présente en Amérique du Sud et en Afrique. Originaire du Bénin, Vanessa en sait quelque chose. Dans cette discussion avec son mari Ellis et elle, il est question de leur cuisine afro-caribéenne qui tire ses influences d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, des millions d'Africains sont arrivés dans les Caraïbes avec la traite négrière. Avant qu'Ellis nous parle du riz sauce pois, cette spécialité caribéenne et plus précisément haïtienne qu'il prépare chez Mikwabo, Vanessa nous raconte le tiep de son enfance.
Alors, le tiep, donc, c'est un plat originaire donc, du Sénégal. C'est appelé aussi riz jollof ailleurs. Et en fait, j'aime beaucoup ce plat-là parce que ma mère me le faisait quand j'étais plus jeune et elle le fait très bien. Donc, du coup, c'est du riz cassé en général deux fois que l'on fait cuire donc, dans un bouillon de poisson et de légumes. Les légumes les plus utilisés sont les carottes, le chou. On peut mettre parfois de la courgette, de l'aubergine. Deux types d'aubergines, très souvent même l'aubergine d'Afrique qui est toute petite et ronde, très amère, et l'aubergine qu'on connaît la plupart du temps, l'aubergine violette qui est longue et assez grosse. Et moi du coup, mon légume préféré dans le tieb, c'est le chou. Donc c'est vraiment un plat qui me rappelle mon enfance, parce que ben, je ramassais tout le chou dans le plat de tieb quand ma mère en faisait.
Et cette recette dont tu parles, c'est ta mère qui l'a inventée ou alors c'est une recette qu'on retrouve ailleurs au Bénin ?
Ben alors cette recette, on peut la retrouver au Bénin, parce que c'est vrai qu'au Bénin, on a des plats typiques à nous, enfin dont un ou deux on va dire, qui sont pas très très réputés. Et ensuite, on cuisine quasiment la même chose que dans tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, on peut retrouver des familles au Bénin qui mangent du tieb.
J'ai regardé un petit peu dans les recettes typiques comportant du riz au Bénin. J'ai trouvé l'atassi, qui est un riz aux haricots, ou encore le riz gras, donc un riz aux tomates, et qui semble être un peu le cousin béninois du riz jollof. Est-ce que ça, ce sont des plats qui existaient aussi beaucoup dans ton enfance, dans tes souvenirs d'enfance ?
Oui, tout à fait, oui. En fait, atassi, donc c'est ouais, comme tu l'as dit, du riz avec des haricots, et on le mange, nous, avec de la sauce friture, ou appelée oja au Bénin. Et en fait, c'est une réduction de tomates, avec un certain nombre d'épices, des crevettes séchées, du poisson fumé, et qu'on fait donc complètement dessécher au feu. Et ensuite, on y ajoute de l'huile et on le fait frire avec de la viande et encore une fois des mollusques comme des moules, entre autres. Et c'est vrai que c'est un riz aussi que je mangeais beaucoup avec ma mère. Mais ça, c'était plus occasionnel parce que la sauce friture, elle est très grasse. Donc forcément, on n'en abuse pas tellement, quoi.
Qu'est-ce que le riz apportait dans tous ces plats ?
Alors, le riz, je dirais, ça apporte déjà de la consistance. Ça nous apportait déjà, ça nous permet d'être, de manger à notre faim déjà pour commencer. Ensuite, la texture quand même en bouche est agréable parce qu'au final, quand on mange le riz, c'est comme une pâte un peu et ça se rapproche de ce que nous, on mange très souvent, la pâte qui est faite en général avec de la farine de blé, mais on a également de l'akasa qui est fait à base de farine de riz.
Donc,
oui. Donc du coup, on retrouve en fait la texture de la pâte qui est en fait le deuxième accompagnement qu'on mange le plus au Bénin, la pâte et le riz.
Et tu disais alors riz cassé deux fois, donc est-ce que c'est important que ce riz soit cassé deux fois ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens connaissent le riz long, en fait, comme on dit, le riz classique, en fait, qu'on retrouve le plus souvent. Et le riz cassé, donc c'est un riz qui a été cassé donc une fois ou deux fois et qui lui donne donc une forme soit à demi ou soit très fine, presque comme le riz qu'on utilise pour faire le risotto, voilà. Le riz qui est très court, voilà.
D'accord. Un riz plus court, plus rond.
Voilà, plus court et plus rond, voilà, c'est ça. Et donc c'est ce riz-là qu'on utilise, donc, le plus souvent.
Et dans les plats que tu as cités, j'ai l'impression qu'il y a soit des plats un peu en sauce, soit des plats qui vont être cuisinés avec du gras. J'ai l'impression du coup que le riz va permettre d'absorber peut-être ces matières. C'est pour ça que c'est un féculent qui est intéressant.
Oui, c'est ça. Essentiellement, on se nourrit, comme tu l'as bien remarqué, de sauce. C'est-à-dire que on fait d'abord une sauce. Et ensuite, on voit si on fait du riz ou de la pâte. Et effectivement, c'est finalement ce qui nous aide à absorber tout à fait la sauce qu'on a envie de manger, qui nous fait plaisir. Alors après, nous, au Bénin, il y a aussi la dimension du fait qu'on mange avec les doigts.
Ouais.
Donc, pas que avec les doigts, bien évidemment. Je tiens quand même à le préciser. Il y en a qui utilisent quand même des couverts, mais on a plaisir aussi à manger avec les doigts. Le riz peut nous aider, oui, à attraper plus facilement. Ben, en tout cas, le riz est plus simple à manger avec des couverts, déjà. Mais il peut y arriver aussi qu'on mange le riz avec les doigts. Parce
oui.
que c'est culturel. Et puis, au final, ça devient un plaisir.
Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder cet article que je vous ai envoyé aussi de RFI. Donc, selon cet article-là, les Béninois ont coutume de manger du riz asiatique. Parce que quand on parle du riz national au Béninois, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, il n'est pas assez blanc, il est plus difficile à cuire, il n'est pas parfumé. » Et donc, selon cet article de RFI, la situation aujourd'hui, elle est telle qu'il y a surtout beaucoup de riz importé en fait au Bénin. Mais à l'échelle nationale, on essaye de faire changer les choses puisque le gouvernement s'est engagé dans une politique de soutien à la riziculture nationale pour soutenir vraiment le riz produit localement.
Oui, alors effectivement, c'est un article que je n'avais pas encore lu, donc ça m'a intéressé de voir ça, surtout que j'avais fait quelques recherches il y a de ça un an et demi sur l'alimentation globale en Afrique subsaharienne essentiellement. Et donc, je suis étonnée justement du fait qu'il y ait en fait ce mouvement-là par rapport au riz au Bénin. Et j'ai essayé d'ailleurs de me renseigner un peu plus avec mon père qui vit au Bénin. Et donc, je lui ai demandé, lui en tant que local, justement, son ressenti. Et il m'a retranscrit exactement la même chose que l'article. C'est-à-dire qu'effectivement, les Béninois n'aiment pas leur riz local. Ce qui est pour moi un gros point d'interrogation.
Ouais. D'accord. Donc
ça m'interroge et ça m'interpelle même, puisque je me dis que ça serait perdre finalement une part de notre richesse.
Oui.
Finalement.
Donc lui, c'est ce qu'il a pu te dire. Alors les Béninois vont avoir une préférence pour le riz.
Le riz asiatique. Le riz tout asiatique. À fait. Ils préfèrent le riz asiatique par rapport, exactement comme dans l'article, quoi, par rapport à la texture, par rapport au goût. Et ça fait le lien aussi avec les recherches que j'ai pu faire auparavant. C'est vrai qu'il y a quand même le passé colonial qui, je pense, joue énormément en fait dans le ressenti finalement des habitants. Puisque le riz asiatique a été forcément introduit par les colons à l'époque.
Donc c'est un goût auquel on a habitué aussi le palais. Les Béninois. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les choses peuvent changer avec ces initiatives gouvernementales qui veulent valoriser le riz local ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est un projet qui est gros, prometteur et dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, on le voit partout, dans, je dirais... pratiquement toutes les nations, tout le monde essaye maintenant de bouger et de faire valoir son territoire, de faire valoir ses produits, par exemple, de faire valoir sa culture aussi, en prouvant que finalement, peu importe où on se trouve dans le monde, notre manière de faire ou ce que l'on a sur notre terre a de la valeur. Donc, je pense que c'est une très belle initiative et qui doit justement voir le jour.
Alors Vanessa, avant de passer la parole à Élise, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur votre travail ensemble, puisque donc vous travaillez ensemble, vous êtes en couple aussi.
Moi, donc depuis mon enfance, aux alentours d'une dizaine d'années, je savais que je voulais travailler dans l'hôtellerie-restauration. J'avais un plus gros penchant pour l'hôtellerie, mais j'aimais aussi la restauration et j'ai toujours aimé la cuisine globalement, parce que j'ai un père qui cuisine beaucoup et qui a eu un restaurant aussi il y a quelques années. Et donc, je suis tombée sur Élise. Voilà, c'est enfin vraiment...
Un hasard dans la
rue. Non, mais c'est, finalement, c'est vraiment, le destin finalement qui a fait qu'on s'est rencontrés, parce que je l'ai connue donc par sa cousine est une amie d'amis à moi. Voilà. Et on s'est rencontrés chez sa cousine dans le cadre d'une levée de mariage.
Oui.
Et ça n'a pas été forcément le coup de foudre, comme on dit tout de suite, mais on est resté en contact et finalement, Élise a réussi à faire son chemin dans mon cœur, si je puis dire ainsi.
C'est très beau.
Mais tout de suite, on a su du coup qu'on voulait travailler ensemble et on a fait mûrir ce projet de restaurant. Et donc Élise, lui, depuis longtemps, me dit voilà, je vais faire un restaurant et je vais promouvoir, mettre en avant la gastronomie africaine et antillaise. Et au début, moi, j'étais un peu dubitative. Je me disais, mais non, concentre-toi sur les Antilles, etc. Les gens risquent de se poser des questions. Pourquoi l'Afrique ? Il dit, oui, mais parce que c'est toi. J'ai dit, oui, mais moi, je suis pas cuisinière. Enfin, énormément de questions, surtout quand je me suis mise à fond dans le projet avec lui, que finalement, bah, c'était une très bonne idée.
Ouais.
C'était une très bonne idée parce que ces deux cuisines se rejoignent sur beaucoup de choses. Il en parlera aussi, je pense.
C'est exactement la bonne fusion, en fait, de vos deux personnes, cette offre, cette carte de cuisine afro-caribéenne. Élise, est-ce que tu peux nous en parler un peu, notamment avec toujours en tête le riz, peut-être, pour mettre en avant les plats qui en comportent?
C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de riz, entre guillemets, dans mes plats, plus dans le plat principal, mon dernier plat salé. Moi, j'utilise plus le riz vénéré. C'est un riz italien, c'est un riz noir. Pourquoi j'utilise ? C'est à cause de son côté gourmand, son côté noisette, que ce soit en Guyane ou en Haïti. On utilise souvent le riz parfumé. Et on a aussi ce riz cassé, pas deux fois, mais cassé trois fois. Et c'est vrai que nos parents préfèrent toujours le riz parfumé.
Et alors ce riz vénéré, dans quel type de plat tu le fais intervenir ?
Ce riz vénéré, il y a un plat que j'ai retravaillé, un plat qui vient de chez moi. Ça s'appelle le riz sauce pois. Le riz sauce pois, c'est du riz blanc avec des haricots noirs et avec du lait de coco. Moi, comment je l'ai retravaillé ? J'ai travaillé le riz vénéré tout seul. Ensuite, je le refais passer à la poêle avec les haricots rouges et les haricots noirs. Je les mélange tout ça. Et après, à la fin, je mets des petits pois, les tout petits pois en gros qu'il y a de France. Je les mets dedans pour donner ce côté gourmand. Je ne les cuis pas. Et vraiment pour garder ce côté croquant, ce côté sucré en gros de petits pois. Et on met des crevettes séchées. Des crevettes séchées. Là, on a une arrivée de crevettes séchées qui vient de Cameroun. Là, on ressent vraiment le fumé de la crevette séchée. Et après, pour finir, pour envoyer le plat, on met du lait de coco.
D'accord.
Bien chaud et on envoie. Mais de base, le riz qu'on fait chez nous, c'est on met toutes les haricots, on les broie, on le met lait de coco, sel chinois, un peu de sel, un peu de sucre. Et après, on le sert avec le riz blanc.
Donc, ah oui, donc tu t'es vraiment inspiré de cette recette et tu as décomposé les ingrédients que tu incorpores un peu différemment. Quoi.
C'est ça. J'ai vraiment voulu changer ce côté du plat de chez moi. C'est pour ça, en gros, je dis souvent que notre cuisine, qui est au Mikwabo, c'est une cuisine d'influence. C'est-à-dire, il y a mon vécu avec mes parents, le vécu, en gros, du pays, le vécu de Vanessa et en Afrique. Les deux les réalités qui est là-bas, des plats, etc. Et le côté, en gros, notre vécu en France.
Ouais.
C'est pour ça que là, on retrouve le petit pois, on retrouve après la technicité, on retrouve l'élégance qui est dedans. Parce que les plats, je dis pas que les plats de la Guyane, ni d'Haïti, ni de l'Afrique, c'est pas élégant. C'est le côté convivial qui est dedans. Comme oui. on peut dire, la bonne franquette.
Tout à fait.
Donc, et là, en gros, ce que moi j'ai appris en France, c'est le visuel, l'esthétique, le luxe. Et tout ça, je mets ça dans le plat et voilà.
C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ces cuisines-là, qui sont des cuisines, le plat tel que tu le racontes, ce plat très familial, on mélange tout parce qu'il faut que ce soit pratique et qu'on puisse servir un peu à tout le monde.
C'est ça.
Et là, j'ai l'impression que du coup, ce que vous faites avec le restaurant, c'est de rendre un peu plus visible ce qu'il y a à l'intérieur, le faire ressortir dans le dressage pour qu'on puisse encore plus, quand on ne connaît pas ce plat à la base, comprendre ce qu'il y a dedans et l'apprécier aussi.
Exactement, c'est ça. Comme je dis souvent à mes clients, à chaque fin de service, je viens avec un plateau avec toutes les produits que j'ai pu servir de l'amuse-bouche jusqu'au dessert. J'ai dit souvent que le produit est la star. C'est pour ça que je le mets en valeur. Il y a de la couleur dans les plats pour que chaque personne puisse voir et repérer le produit qu'ils ont mangé pour après me poser des questions de ce produit-là.
Et ça fait quelques années maintenant que les mots cuisine afro-caribéenne, on les voit de plus en plus souvent. Selon toi, comment on peut expliquer aux gens qui n'auraient jamais mis les pieds en fait, dans une table afro-caribéenne, comment on peut leur expliquer ce que ça veut dire exactement, cuisine afro-caribéenne?
Il y a beaucoup de débats qui se font aussi au niveau de la terminologie, parce que du coup, certains se disent qu'on globalise l'Afrique en disant Afrique, puisque du coup, il y a différents types d'Afrique, si on peut dire ainsi. Il y a l'Afrique subsaharienne, aussi appelée Afrique noire, et puis il y a aussi le Maghreb, qui est dans l'Afrique finalement. Donc quand on dit afro-caribéenne, parfois ils trouvent ça réducteur. Mais c'est vrai que c'est finalement difficile de trouver un terme qui globalise sans globaliser, voilà. Donc nous, c'est comme Élise l'a dit tout à l'heure, nous on utilise l'influence pour nous en rappelant qu'il y a 54 États dans l'Afrique plus les îles d'outre-mer.
C'est intéressant parce que ça permet de rappeler que le préfixe afro n'a pas vocation à résumer tout le continent. Tu vois, tu as senti que c'était un terme qui était souvent en discussion.
Oui, énormément. Énormément, parce que à chaque fois, nous, quand on a commencé à parler de notre projet et qu'on disait l'influence des 54 États d'Afrique et des Antilles ou des îles d'outre-mer, les gens nous disaient oui, mais c'est trop long. Et nous, on disait oui, mais on veut aussi voilà faire ressurgir le fait que c'est, l'Afrique est très disparate et juste dire afro. Oui, mais afro, finalement, ça résume. Enfin, c'est vraiment... un débat terminologique. Oui, les Noirs d'Afrique avaient été emmenés sur les îles et que finalement, Afrique Antilles, il y a quand même une amitié finalement.
Élise et Vanessa m'ont expliqué avoir récemment passé une commande de riz du Bénin. J'ai hâte de savoir si celui-ci plaira à Élise autant que le riz vénéré, dont l'usage lui a été inspiré par le chef brésilien Rafael Rego, chez qui il a travaillé. Merci à Aveline, Élise et Vanessa de nous avoir donné de leur temps pour parler de riz. Comme promis, je vous quitte avec une petite recette, ou plutôt un concept à adapter avec ce que vous trouverez chez vous. Il s'agit du sformato di riso, autrement dit un gratin de riz à l'italienne. Pour préparer ce plat, il vous faut du riz, un fromage qui vous fait plaisir, des légumes de votre choix, des oignons, des tomates séchées et ou des olives noires, des herbes aromatiques comme par exemple l'origan. Donc faites cuire votre riz comme d'habitude. Puis, dans une poêle à côté, faites revenir dans de l'huile d'olive vos oignons, légumes. Incorporez ensuite le riz. Assaisonnez avec vos herbes, le sel et le poivre. Disposez ensuite le tout dans un moule. Un étage de riz, un étage de fromage genre de la mozza. Un autre étage de riz, un autre de mozza. 15 minutes à couvert dans le four, puis 15 autres à découvert pour faire griller le dessus. Servi avec un filet d'huile d'olive, c'est délicieux. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Ashley Tola, mixée par Charles de Cilia, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!